Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand, première partie, livre cinquième. Premier mouvement politique en Bretagne, coup d'œil sur l'histoire de la monarchie. 2. Constitution des États de Bretagne, tenue des États. 3. Revenu du roi en Bretagne, revenu particulier de la province, le fouage. J'assiste pour la première fois à une réunion politique, scène. 4. Ma mère retirée à Saint-Malo. 5. Cléricature, environ de Saint-Malo. 6. Le revenant, le malade. 7. État de Bretagne en 1789, insurrection, Saint-Rivel, mon camarade de collège, est tué. 8. Année 1789, voyage de Bretagne à Paris, mouvement sur la route. Aspect de Paris, renvoi de M. Necker, Versailles, joie de la famille royale, insurrection générale, prise de la Bastille. 9. Effet de la prise de la Bastille sur la cour, tête de Foulon et de Berthier. 10. Rappel de M. Necker, séance du 4 août 1789, journée du 5 octobre, le roi est amené à Paris. 11. Assemblée constituante. 12. Mirabeau. 13. Séance de l'Assemblée nationale, Robespierre. 14. Société, aspect de Paris. 15. Ce que je faisais au milieu de tout ce bruit. Mes jours solitaires, Mademoiselle Monet, j'arrête avec Monsieur de Malesherbes le plan de mon voyage en Amérique. Bonaparte et moi, sous-lieutenant ignoré. Le marquis de la Rouërie. Je m'embarque à Saint-Malo, dernière pensée en quittant la terre natale. Chapitre 1. Paris, septembre 1821, revue en décembre 1846. Premier mouvement politique en Bretagne, coup d'œil sur l'histoire de la monarchie. Mes différentes résidences en Bretagne, dans les années 1787 et 1788, commencèrent mon éducation politique. On retrouvait dans les États de province le modèle des États généraux. Aussi, les troubles particuliers qui annoncèrent ceux de la nation éclatèrent-ils dans deux pays d'État, la Bretagne et le Dauphiné. La transformation qui se développait depuis 200 ans touchait à son terme. La France passait de la monarchie féodale à la monarchie des États généraux, de la monarchie des États généraux à la monarchie des parlements, de la monarchie des parlements à la monarchie absolue, tendait à la monarchie représentative à travers la lutte de la magistrature contre la puissance royale. Le parlement Maupeou, l'établissement des assemblées provinciales avec le vote par tête, la première et la seconde assemblée des notables, la cour plénière, la formation des grands bailliages, la réintégration civile des protestants, l'abolition partielle de la torture, celle des corvées, l'égale répartition du paiement de l'impôt, étaient des preuves successives de la révolution qui s'opérait. Mais alors, on ne voyait pas l'ensemble des faits. Chaque événement paraissait un accident isolé. À toutes les périodes historiques, il existe un esprit-principe. En ne regardant qu'un point, on n'aperçoit pas les rayons convergeant au centre de tous les autres points. On ne remonte pas jusqu'à l'agent caché qui donne la vie et le mouvement général, comme l'eau ou le feu dans les machines. C'est pourquoi, au début des révolutions, tant de personnes croient qu'il suffirait de briser telle roue pour empêcher le torrent de couler ou la vapeur de faire explosion. Le XVIIIe siècle, siècle d'action intellectuelle, non d'action matérielle, n'aurait pas réussi à changer si promptement les lois s'il n'eût rencontré son véhicule, les parlements, et notamment le Parlement de Paris, devinrent les instruments du système philosophique. Toute opinion meurt impuissante ou frénétique si elle n'est logée dans une assemblée qui la rend pouvoir, la munit d'une volonté, lui attache une langue et des bras. C'est et ce sera toujours par des corps légaux ou illégaux qu'arrivent et arriveront les révolutions. Les parlements avaient leur cause à venger. La monarchie absolue leur avait ravi une autorité usurpée sur les États généraux. Les enregistrements forcés, les lits de justice, les exils, en rendant les magistrats populaires, les poussaient à demander des libertés dont, au fond, ils n'étaient pas sincères partisans. Ils réclamaient les États généraux, n'osant avouer qu'ils désiraient pour eux-mêmes la puissance législative et politique. Ils hâtaient de la sorte la résurrection d'un corps dont ils avaient recueilli l'héritage, lequel, en reprenant la vie, les réduirait tout d'abord à leur propre spécialité, la justice. Les hommes se trompent presque toujours dans leur intérêt, qu'ils se meuvent par sagesse ou passion. Louis XVI rétablit les parlements qui le forcèrent à appeler les États généraux. Les États généraux, transformés en Assemblée nationale et bientôt en Convention, détruisirent le trône et les parlements, envoyèrent à la mort et les juges et le monarque de qui émanait la justice. Mais Louis XVI et les parlements en agirent de la sorte, parce qu'ils étaient, sans le savoir, les moyens d'une révolution sociale. L'idée des États généraux était donc dans toutes les têtes, seulement on ne voyait pas où cela allait. Il était question pour la foule de combler un déficit que le moindre banquier aujourd'hui se chargerait de faire disparaître. Un remède si violent, appliqué à un mal si léger, prouve qu'on était emporté vers des régions politiques inconnues. Pour l'année 1786, seule année dont l'état financier soit bien avéré, la recette était de 412 924 000 livres, la dépense de 593 542 000 livres, déficit 180 618 000 livres, réduit à 140 millions par 40 618 000 livres d'économie. Dans ce budget, la maison du roi est portée à l'immense somme de 37 200 000 livres. Les dettes des princes, les acquisitions de châteaux et les dépradations de la cour étaient la cause de cette surcharge. On voulait avoir les États généraux dans leur forme de 1614. Les historiens citent toujours cette forme, comme si, depuis 1614, on n'avait jamais ouï parler des États généraux, ni réclamé leur convocation. Cependant, en 1651, les ordres de la noblesse et du clergé, réunis à Paris, demandèrent les États généraux. Il existe un gros recueil des actes et des discours faits et prononcés alors. Le Parlement de Paris, tout puissant à cette époque, loin de seconder le vœu des deux premiers ordres, cassa leurs assemblées comme illégales, ce qui était vrai. Et puisque je suis sur ce chapitre, je veux noter un autre fait grave, échappé à ceux qui se sont mêlés et qui se mêlent d'écrire l'histoire de France sans la savoir. On parle des trois ordres comme constituant essentiellement les États dits généraux. Eh bien, il arrivait souvent que des bailliages ne nommaient des députés que pour un ou deux ordres. En 1614, le bailliage d'Amboise n'en nomma ni pour le clergé ni pour la noblesse. Le bailliage de Châteauneuf en Thymerais n'en envoya ni pour le clergé ni pour le tiers-état. Le Puy, La Rochelle, le Lauragais, Calais, la Haute-Marche, Châtellerault firent défaut pour le clergé, et Montdidier est roi pour la noblesse. Néanmoins, les états de 1614 furent appelés états généraux. Aussi les anciennes chroniques, s'exprimant d'une manière plus correcte, disent, en parlant de nos assemblées nationales, ou les trois États, ou les notables bourgeois, ou les barons et les évêques, selon l'occurrence, et elles attribuent à ces assemblées ainsi composées la même force législative. dans les diverses provinces, souvent le tiers, tout convoqué qu'il était, ne députait pas, et cela par une raison inaperçue mais fort naturelle. Le tiers s'était emparé de la magistrature, il en avait chassé les gens d'épée, il y régnait d'une manière absolue, excepté dans quelques parlements nobles, comme juge, avocat, procureur, greffier, clerc, etc. Il faisait les lois civiles et criminelles et, à l'aide de l'usurpation parlementaire, il exerçait même le pouvoir politique. La fortune, l'honneur et la vie des citoyens relevaient de lui. Tout obéissait à ses arrêts. Toute tête tombait sous le glaive de ses justices. Quand donc il jouissait isolément d'une puissance sans bornes, qu'avait-il besoin d'aller chercher une faible portion de cette puissance dans des assemblées où il n'avait paru qu'à genoux? Le peuple, métamorphosé en moine, s'était réfugié dans les cloîtres et gouvernait la société par l'opinion religieuse. Le peuple, métamorphosé en collecteur et en banquier, s'était réfugié dans la finance et gouverné la société par l'argent. Le peuple, métamorphosé en magistrat, s'était réfugié dans les tribunaux et gouvernait la société par la loi. Ce grand royaume de France, aristocrate dans ses parties ou ses provinces, était démocrate dans son ensemble, sous la direction de son roi, avec lequel il s'entendait à merveille et marchait presque toujours d'accord. C'est ce qui explique sa longue existence. Il y a toute une nouvelle histoire de France à faire, ou plutôt l'histoire de France n'est pas faite. Toutes les grandes questions mentionnées ci-dessus étaient particulièrement agitées dans les années 1786, 1787 et 1788. Les têtes de mes compatriotes trouvaient dans leur vivacité naturelle, dans les privilèges de la province, du clergé et de la noblesse, dans les collisions du Parlement et des États, abondante matière d'inflammation. Monsieur de Calonne, un moment intendant de la Bretagne, avait augmenté les divisions en favorisant la cause du tiers-État. Monsieur de Montmorin et Monsieur de Thiard étaient des commandants trop faibles pour faire dominer le parti de la cour. La noblesse se coalisait avec le Parlement qui était noble. Tantôt elle résistait à Monsieur Necker, à Monsieur de Calonne, à l'archevêque de Sens. Tantôt elle repoussait le mouvement populaire que sa résistance première avait favorisé. Elle s'assemblait, délibérait, protestait. Les communes ou municipalités s'assemblaient, délibéraient, protestaient en sens contraire. L'affaire particulière du fouage, en se mêlant aux affaires générales, avait accru les inimitiés. Pour comprendre ceci, il est nécessaire d'expliquer la constitution du duché de Bretagne. Chapitre 2. Paris, septembre 1821. Constitution des États de Bretagne, tenue des États. Les États de Bretagne ont plus ou moins varié dans leur forme, comme tous les États de l'Europe féodale auxquels ils ressemblaient. Les rois de France furent substitués au droit des ducs de Bretagne. Le contrat de mariage de la duchesse Anne de l'an 1491 n'apporta pas seulement la Bretagne en dot à la couronne de Charles VIII et de Louis XII, mais il stipula une transaction, en vertu de laquelle fut terminé un différend qui remontait à Charles de Blois et au comte de Montfort. La Bretagne prétendait que les filles héritaient au duché. La France soutenait que la succession n'avait lieu qu'en ligne masculine, que celle-ci venant de s'éteindre, la Bretagne, comme grand fief, faisait retour à la couronne. Charles VIII et Anne, ensuite Anne et Louis XII, se cédèrent mutuellement leurs droits ou prétentions. Claude, fille d'Anne et de Louis XII, qui devint femme de François Ier, laissa en mourant le duché de Bretagne à son mari. François Ier, d'après la prière des États assemblés à Vannes, unit par édit publié à Nantes en 1532 le duché de Bretagne à la couronne de France, garantissant à ce duché ses libertés et privilèges. À cette époque, les États de Bretagne étaient réunis tous les ans. Mais en 1630, la réunion devint bisannuelle. Le gouverneur proclamait l'ouverture des États. Les trois ordres s'assemblaient selon les lieux, dans une église ou dans les salles d'un couvent. Chaque ordre délibérait à part.
c'étaient trois assemblées particulières avec leurs diverses tempêtes qui se convertissaient en ouragan général quand le clergé, la noblesse et le tiers venaient à se réunir. La cour soufflait la discorde, et dans ce champ resserré comme dans une plus vaste arène, les talents, les vanités et les ambitions étaient en jeu. Le père Grégoire de Rostrenen, capucin, dans la dédicace de son dictionnaire français-breton, parle de la sorte à nos seigneurs les États de Bretagne. S'il ne convenait qu'à l'orateur romain de louer dignement l'auguste assemblée du Sénat de Rome, me convenait-il de hasarder l'éloge de votre auguste assemblée, qui nous retrace si dignement l'idée de ce que l'ancienne et la nouvelle Rome avaient de majestueuse et de respectable? Rostrenen prouve que le celtique est une de ces langues primitives que Gomère, fils aîné de Japhet, apporta en Europe, et que les bas-bretons, malgré leur taille,
descendent des géants.
Malheureusement, les enfants bretons de Gomère, longtemps séparés de la France, ont laissé dépérir une partie de leurs vieux titres. Leur charte, auquel ils ne mettaient pas une assez grande importance, comme les liant à l'histoire générale, manque trop souvent de cette authenticité à laquelle les déchiffreurs de diplômes attachent de leur côté beaucoup trop de prix. Le temps de la tenue des États en Bretagne était un temps de galas et de bals. On mangeait chez Monsieur le Commandant, on mangeait chez Monsieur le Président de la Noblesse, on mangeait chez Monsieur le Président du Clergé, on mangeait chez Monsieur le Trésorier des États, on mangeait chez Monsieur l'Intendant de la Province, on mangeait chez Monsieur le Président du Parlement, on mangeait partout. Et l'on buvait. À de longues tables de réfectoire se voyaient assis des Duguesclin laboureurs, des Duguay-Trouin matelots, portant aux côtés leur épée de fer à vieille garde ou leur petit sabre d'abordage. Tous les gentilshommes assistant aux états en personne ne ressemblaient pas mal à une diète de Pologne, de la Pologne à pied, non à cheval, diète de Scythe, non de Sarmate. Malheureusement, on jouait trop. Les bals ne discontinuaient. Les Bretons sont remarquables par leurs danses et par les airs de ces danses. Madame de Sévigné a peint nos ripailles politiques au milieu des landes, comme ces festins des fées et des sorciers qui avaient lieu la nuit sur les bruyères. « Vous aurez maintenant, écrit-elle, des nouvelles de nos états pour votre peine d'être bretonne. Monsieur de Chaune arriva dimanche au soir au bruit de tout ce qui peut en faire à Vitré. Le lundi matin, il m'écrivit une lettre. J'y fis réponse par aller dîner avec lui. On mange à deux tables dans le même lieu. Il y a 14 couverts à chaque table. Monsieur en tient une et madame l'autre. La bonne chère est excessive. On remporte les plats de rôti tout entiers. Et pour les pyramides de fruits, il faut faire hausser les portes. Nos pères ne prévoyaient pas ces sortes de machines, puisque même ils ne comprenaient pas qu'il fallut qu'une porte fût plus haute qu'eux. Après le dîner, messieurs de Lomaria et de Coatlogon dansèrent avec deux bretonnes des passe-pieds merveilleux et des menuets d'un air que les courtisans n'ont pas à beaucoup près. Ils y font des pas de bohémiens et de bas bretons avec une délicatesse et une justesse qui charment. C'est un jeu, une chair, une liberté jour et nuit qui attire tout le monde. Je n'avais jamais vu les États. C'est une assez belle chose. Je ne crois pas qu'il y ait une province rassemblée qui ait un aussi grand air que celle-ci. Elle doit être bien pleine, du moins car il n'y en a pas un seul à la guerre ni à la cour. Il n'y a que le petit Guidon, monsieur de Sévigné le fils, qui peut-être y reviendra un jour, comme les autres. Une infinité de présents, des pensions, des réparations de chemins et de villes, 15 ou 20 grandes tables, un jeu continuel, des bals éternels, des comédies 3 fois la semaine, une grande braverie. Voilà les états. J'oublie 300 ou 400 pipes de vin qu'on y boit. Les Bretons ont de la peine à pardonner à madame de Sévigné ses moqueries. Je suis moins rigoureux. Mais je n'aime pas qu'elle dise « Vous me parlez bien plaisamment de nos misères, nous ne sommes plus si roués, 1 en 8 jours seulement, pour entretenir la justice. » Il est vrai que la penderie me paraît maintenant un rafraîchissement. c'est pousser trop loin l'agréable langage de cour. Barrère parlait avec la même grâce de la guillotine. En 1793, les noyades de Nantes s'appelaient des mariages républicains. Le despotisme populaire reproduisait l'aménité de style du despotisme royal. Les fats de Paris qui accompagnaient aux États messieurs les gens du roi racontaient que nous autres, au bureau, nous faisions doubler nos poches de fer blanc afin de porter à nos femmes les fricassées de poulet de monsieur le commandant. On payait cher ces railleries. Un comte de Sabran était naguère resté sur la place en échange de ses mauvais propos. Ce descendant des troubadours et des rois provençaux, grand comme un Suisse, se fit tuer par un petit chasse-lièvre du Morbihan, de la hauteur d'un lapon. Ce Caire ne le cédait point à son adversaire en généalogie. Si Saint-Elzéar de Sabran était proche parent de Saint-Louis, Saint-Corentin, grand-oncle du très noble Caire, était évêque de Quimper sous le roi Galon II, 300 ans avant Jésus-Christ. Chapitre 3. Revenu du roi en Bretagne, revenu particulier de la province, le fouage, j'assiste pour la première fois à une réunion politique, scène. Le revenu du roi en Bretagne consistait dans le don gratuit, variable selon les besoins. Dans le produit du domaine de la couronne, qu'on pouvait évaluer à 300 000 ou 400 000 francs, dans la perception du timbre, etc. La Bretagne avait ses revenus particuliers qui lui servaient à faire face à ses charges, le grand et le petit devoir qui frappaient les liquides et le mouvement des liquides, fournissant 2 millions annuels. Enfin, les sommes rentrant par le fouage. On ne se doute guère de l'importance du fouage dans notre histoire. Cependant, il fut à la Révolution de France ce que fut le timbre à la Révolution des États-Unis. Le fouage, quensus pro singulis focis exactus, était un sens ou une espèce de taille exigée par chaque feu sur les biens roturiers. Avec le fouage graduellement augmenté, se payaient les dettes de la province. En temps de guerre, les dépenses s'élevaient à plus de 7 millions d'une session à l'autre, somme qui primait la recette. On avait conçu le projet de créer un capital des deniers provenus du fouage et de le constituer en rente au profit des fouagistes. Le fouage n'eût plus été alors qu'un emprunt. L'injustice, bien qu'injustice légale au terme du droit coutumier, était de le faire porter sur la seule propriété roturière. Les communes ne cessaient de réclamer, la noblesse qui tenait moins à son argent qu'à ses privilèges, ne voulait pas entendre parler d'un impôt qui l'aurait rendu taillable. Telle était la question quand se réunirent les sanglants États de Bretagne du mois de décembre 1788. Les esprits étaient alors agités par diverses causes. L'assemblée des notables, l'impôt territorial, le commerce des grains, la tenue prochaine des États généraux et l'affaire du collier. La cour plénière et le mariage de Figaro, les grands bailliages et Cagliostro et Mesmer, 1000 autres incidents graves ou futiles, étaient l'objet des controverses dans toutes les familles. La noblesse bretonne, de sa propre autorité, s'était convoquée à Rennes pour protester contre l'établissement de la cour plénière. Je me rendis à cette diète. C'est la première réunion politique où je me sois trouvée de ma vie. J'étais étourdi et amusé des cris que j'entendais. On montait sur les tables et sur les fauteuils, on gesticulait, on parlait tous à la fois. Le marquis de Trémargat, jambe de bois, disait d'une voix de stentor « Allons tous chez le commandant monsieur de Thiars, nous lui dirons la noblesse bretonne est à votre porte, elle demande à vous parler, le roi même ne la refuserait pas. » À ce trait d'éloquence, les bravos ébranlaient les voûtes de la salle. Ils recommençaient, le roi même ne la refuserait pas. Les huchets et les trépignements redoublaient. Nous allâmes chez monsieur le comte de Thiars, homme de cour, poète érotique, esprit doux et frivole, mortellement ennuyé de notre vacarme. Il nous regardait comme des houhous, des sangliers, des bêtes fauves. Il brûlait d'être hors de notre armorique et n'avait nulle envie de nous refuser l'entrée de son hôtel. notre orateur lui dit ce qu'il voulut, après quoi nous vîmes rédiger cette déclaration. Déclarons infâme ceux qui pourraient accepter quelque place, soit dans l'administration nouvelle de la justice, soit dans l'administration des États, qui ne seraient pas avoués par les lois constitutives de la Bretagne. 12 gentilshommes furent choisis pour porter cette pièce au roi. À leur arrivée à Paris, on les coffra à la Bastille, d'où ils sortirent bientôt en façon de héros. Ils furent reçus à leur retour avec des branches de laurier. Nous portions des habits avec de grands boutons de nacre semés d'hermine, autour desquels boutons était écrite en latin cette devise « Plutôt mourir que de se déshonorer ». Nous triomphions de la cour dont tout le monde triomphait, et nous tombions avec elle dans le même abîme.
Chapitre 4. Paris, octobre 1821. Ma mère retirée à Saint-Malo. Ce fut à cette époque que mon frère, suivant toujours ses projets, prit le parti de me faire agréger à l'ordre de Malte. Il fallait pour cela me faire entrer dans la cléricature. Elle pouvait m'être donnée par M. Courtois de Précigny, évêque de Saint-Malo. Je me rendis donc dans ma ville natale, où mon excellente mère s'était retirée. Elle n'avait plus ses enfants avec elle. Elle passait le jour à l'église, la soirée à tricoter. Ses distractions étaient inconcevables. Je la rencontrai un matin dans la rue portant une de ses pantoufles sous son bras en guise de livre de prière. Deux fois à autre pénétraient dans sa retraite quelques vieux amis et ils parlaient du bon temps. Lorsque nous étions tête à tête, elle me faisait de beaux contes en vers qu'elle improvisait. Dans un de ces contes, le diable emportait une cheminée avec un mécréant, et le poète s'écriait « Le diable en la venue chemina tant et tant qu'on en perdit la vue en moins d'une heure de temps. » « Il me semble, dis-je, que le diable ne va pas bien vite. » Mais Madame de Chateaubriand me prouva que je n'y entendais rien. Elle était charmante, ma mère. Elle avait une longue complainte sur le récit véritable d'une canne sauvage en la ville de Montfort-la-Canne, les Saint-Malo. Certains seigneurs avaient renfermé une jeune fille d'une grande beauté dans le château de Montfort, à dessein de lui ravir l'honneur. À travers une lucarne, elle apercevait l'église de Saint-Nicolas. Elle pria le saint avec des yeux pleins de larmes et elle fut miraculeusement transportée hors du château. Mais elle tomba entre les mains des serviteurs du félon qui voulurent en user avec elle, comme ils supposaient qu'en avait fait leur maître. La pauvre fille éperdue, regardant de tous côtés pour chercher quelque secours, n'aperçut que des cannes sauvages sur l'étang du château. Renouvelant sa prière à Saint-Nicolas, elle le supplia de permettre à ses animaux d'être témoins de son innocence, afin que si elle devait perdre la vie et qu'elle ne pût accomplir les vœux qu'elle avait faits à Saint-Nicolas, les oiseaux les remplissent eux-mêmes à leur façon, en son nom et pour sa personne. La fille mourut dans l'année. Voici qu'à la translation des eaux de Saint-Nicolas le 9 de mai, une canne sauvage, accompagnée de ses petits canetons, vint à l'église de Saint-Nicolas. Elle y entra et voltigea devant l'image du bienheureux libérateur pour lui applaudir par le battement de ses ailes. Après quoi, elle retourna à l'étang, ayant laissé un de ses petits en offrande. Quelque temps après, le caneton s'en retourna, sans qu'on s'en aperçût. Pendant 200 ans et plus, la canne, toujours la même canne, est revenue, à jour fixe avec sa couvée, dans l'église du Grand Saint-Nicolas, à Montfort. L'histoire en a été écrite et imprimée en 1652. L'auteur remarque fort justement que c'est une chose peu considérable devant les yeux de Dieu qu'une chétive canne sauvage, que néanmoins elle tient sa partie pour rendre hommage à sa grandeur, que la cigale de Saint-François était encore moins prisable et que pourtant ses fredons charmaient le cœur d'un séraphin. Mais Madame de Chateaubriand suivait une fausse tradition. Dans sa complainte, la fille renfermée à Montfort était une princesse, laquelle obtint d'être changée en canne pour échapper à la violence de son vainqueur. Je n'ai retenu que ces vers d'un couplet de la romance de ma mère. Canne, la belle est devenue, canne, la belle est devenue, et s'envola par une grille dans un étang plein de lentilles. Chapitre 5. Paris, octobre 1821. Cléricature, environ de Saint-Malo. Comme Madame de Chateaubriand était une véritable sainte, elle obtint de l'évêque de Saint-Malo la promesse de me donner la cléricature. Il s'en faisait scrupule. La marque ecclésiastique donnée à un laïc et à un militaire lui paraissait une profanation qui tenait de la simonie. M. Courtois de Pressigny, aujourd'hui archevêque de Besançon et pair de France, est un homme de bien et de mérite. Il était jeune alors, protégé de la reine et sur le chemin de la fortune, où il est arrivé plus tard par une meilleure voie, la persécution. Je me mets à genoux, en uniforme, l'épée au côté, au pied du prélat. Il me coupa deux ou trois cheveux sur le sommet de la tête. Cela s'appela tonsure, de laquelle je reçus lettres en bonne forme. Avec ces lettres, 200 000 livres de rente pouvaient m'échoir, quand mes preuves de noblesse auraient été admises à Malte. Abus, sans doute, dans l'ordre ecclésiastique, mais chose utile dans l'ordre politique de l'ancienne constitution. Ne valait-il pas mieux qu'une espèce de bénéfice militaire s'attachât à l'épée d'un soldat qu'à la mantille d'un abbé, lequel aurait mangé sa grâce prieurée sur les pavés de Paris? La cléricature, à moi conférée pour les raisons précédentes, a fait dire par des biographes mal informés que j'étais d'abord entré dans l'Église. Cela se passait en 1788. J'avais des chevaux, je parcourais la campagne ou je galopais le long des vagues, mes gémissantes et anciennes amies. Je descendais de cheval et je me jouais avec elles. Toute la famille aboyante de Sylla sautait à mes genoux pour me caresser. Nunc vada latrantis sculae. Je suis allé bien loin admirer les scènes de la nature. Je m'aurais pu contenter de celles que m'offrait mon pays natal. Rien de plus charmant que les environs de Saint-Malo, dans un rayon de 5 à 6 lieues. Les bords de la Rance, en remontant cette rivière, depuis son embouchure jusqu'à Dinan, mériteraient seuls d'attirer les voyageurs. Mélange continuel de rochers et de verdure, de grèves et de forêts, de criques et de hameaux, d'antiques manoirs de la Bretagne féodale et d'habitations modernes de la Bretagne commerçante. Celles-ci ont été construites en un temps où les négociants de Saint-Malo étaient si riches que, dans leurs jours de goguette, ils fricassaient des piastres et les jetaient toutes bouillantes au peuple par les fenêtres. Ces habitations sont d'un grand luxe. Bonaban, château de messieurs de la Saudre, est en partie de marbre à portée de Gênes, magnificence dont nous n'avons pas même l'idée à Paris. La Briantais, le Beau, le Montmarin, la Balue, le Colombier sont, ou étaient, ornés d'orangeries, d'eau jaillissante et de statues. Quelquefois, les jardins descendent en pente au rivage derrière les arcades d'un portique de tilleuls, à travers une colonnade de pins au bout d'une pelouse. Par-dessus les tulipes d'un parterre, la mer présente ses vaisseaux, son calme et ses tempêtes. Chaque paysan, matelot et laboureur est propriétaire d'une petite bastide blanche avec un jardin. Parmi les herbes potagères, les groseilliers, les rosiers, les iris, les soucis de ce jardin, on trouve un plant de thé de Cayenne, un pied de tabac de Virginie, une fleur de la Chine, enfin quelques souvenirs d'une autre rive et d'un autre soleil. C'est l'itinéraire et la carte du maître du lieu. Les tenanciers de la côte sont d'une belle race normande. Les femmes grandes, minces, agiles, portent des corsets de laine grise, des jupons courts de calemandre et de soie rayée, des bas blancs à coins de couleur. Leur front est ombragé d'une large coiffe de basin ou de batiste dont les pattes se relèvent en forme de béret ou flottent en manière de voile. Une chaîne d'argent à plusieurs branches pend à leur côté gauche. Tous les matins, au printemps, ces filles du Nord, descendant de leur barque, comme si elles venaient encore envahir la contrée, apportent au marché des fruits dans des corbeilles et des caillebottes dans des coquilles. Lorsqu'elles soutiennent d'une main sur leur tête des vases noirs remplis de lait ou de fleurs, que les barbes de leurs cornettes blanches accompagnent leurs yeux bleus, leurs visages roses, leurs cheveux blonds emperlés de rosée, les valkyries de Léda, dont la plus jeune est l'avenir, ou les canéphores d'Athènes, n'avaient rien d'aussi gracieux. Ce tableau ressemble-t-il encore? Ces femmes, sans doute, ne sont plus. il n'en reste que mon souvenir. Chapitre 6, Paris, octobre 1821. Le revenant, le malade. Je quittai ma mère et j'allai voir mes sœurs aînées aux environs de Fougères. Je demeurai un mois chez madame de Châteaubourg. Ces deux maisons de campagne, l'Ascardet et le Plessis, près de Saint-Aubin-du-Cormier, célèbre par sa tour et sa bataille, était située dans un pays de roches, de landes et de bois. Ma sœur avait pour régisseur M. Livoret, jadis jésuite, auquel il était arrivé une étrange aventure. Quand il fut nommé régisseur à l'Ascardet, le comte de Châteaubourg, le père, venait de mourir. M. Livoret, qui ne l'avait pas connu, fut installé gardien du castel. La première nuit qu'il y coucha seul, il vit entrer dans son appartement un vieillard pâle, en robe de chambre, en bonnet de nuit, portant une petite lumière. L'apparition s'approche de l'âtre, pose son bougeoir sur la cheminée, rallume le feu et s'assied dans un fauteuil. M. Livoret tremblait de tout son corps. Après 2 heures de silence, le vieillard se lève, reprend sa lumière et sort de la chambre en fermant la porte. Le lendemain, le régisseur conta son aventure au fermier, qui, sur la description de la lémure, affirmèrent que c'était leur vieux maître. Tout ne finit pas là. Si M. Livoret regardait derrière lui dans une forêt, il apercevait le fantôme. S'il avait à franchir un échalier dans un champ, l'ombre se mettait à califourchon sur l'échalier. Un jour, le misérable obsédé s'étant hasardé à lui dire « Monsieur de Châteaubourg, laissez-moi !» Le revenant répondit « Non ». M. Livoret, homme froid et positif, très peu brillant d'imaginative, racontait tant qu'on voulait son histoire, toujours de la même manière et avec la même conviction. Un peu plus tard, j'accompagnai en Normandie un brave officier, atteint d'une fièvre cérébrale. On nous logea dans une maison de paysans. Une vieille tapisserie, prêtée par le seigneur du lieu, séparait mon lit de celui du malade. Derrière cette tapisserie, on saignait le patient. En délassement de ses souffrances, on le plongeait dans des bains de glace. Il grelottait dans cette torture, les ongles bleus, le visage violet et grincé, les dents serrées, la tête chauve, une longue barbe descendant de son menton pointu et servant de vêtement à sa poitrine nue, maigre et mouillée. Quand le malade s'attendrissait, il ouvrait un parapluie, croyant se mettre à l'abri de ses larmes. Si le moyen était sûr contre les pleurs, il faudrait élever une statue à l'auteur de la découverte. Mes seuls bons moments étaient ceux où je m'allais promener dans le cimetière de l'église du hameau, bâti sur un tertre. Mes compagnons étaient les morts, quelques oiseaux et le soleil qui se couchait. Je rêvais à la société de Paris, à mes premières années, à mon fantôme, à ces bois de Combourg dont j'étais si près par l'espace, si loin par le temps. Je retournais à mon pauvre malade, c'était un aveugle conduisant un aveugle. Hélas, un coup, une chute, une peine morale raviront à Homer, à Newton, à Bossuet, leur génie, et ces hommes divins, au lieu d'exciter une pitié profonde, un regret amer et éternel, pourraient être l'objet d'un sourire. Beaucoup de personnes que j'ai connues et aimées ont vu se troubler leur raison auprès de moi, comme si je portais le germe de la contagion. Je ne m'explique le chef-d'œuvre de Cervantes et sa gaieté cruelle que par une réflexion triste. En considérant l'être entier, en pesant le bien et le mal, on serait tenté de désirer tout accident qui porte à l'oubli, comme un moyen d'échapper à soi-même. Un ivrogne joyeux est une créature heureuse. Religion à part, le bonheur est de s'ignorer et d'arriver à la mort sans avoir senti la vie. Je ramenai mon compatriote, parfaitement guéri. Chapitre 7, Paris, octobre 1821. État de Bretagne en 1789. Insurrection, Saint-Riveul, mon camarade de collège, est tué. Madame Lucile et Madame de Farcy, revenues avec moi en Bretagne, voulaient retourner à Paris, mais je fus retenue par les troubles de la province. Les États était semoncé pour la fin de décembre 1788. La commune de Rennes, et après elle les autres communes de Bretagne, avaient pris un arrêté qui défendait à leurs députés de s'occuper d'aucune affaire avant que la question des fouages n'eût été réglée. Le comte de Boisgélin, qui devait présider l'ordre de la noblesse, se hâta d'arriver à Rennes. Les gentilshommes furent convoqués par lettre particulière, y compris ceux qui, comme moi, étaient encore trop jeunes pour avoir voix délibérative. Nous pouvions être attaqués, il fallait compter les bras autant que les suffrages. Nous nous rendîmes à notre poste. Plusieurs assemblées se tinrent chez M. de Boisgélin avant l'ouverture des États. Toutes les scènes de confusion auxquelles j'avais assisté se renouvelèrent. Le chevalier de guerre, le marquis de Trémargat, mon oncle, le comte de Bedée, qu'on appelait Bedée l'artichaut, à cause de sa grosseur, par opposition à un autre Bedée, long et effilé, qu'on nommait Bedée l'asperge, cassèrent plusieurs chaises en grimpant dessus pour pérorer. Le marquis de Trémargat, officier de marine à jambes de bois, faisait beaucoup d'ennemis à son ordre. On parlait un jour d'établir une école militaire où seraient élevés les fils de la pauvre noblesse. Un membre du tiers s'écria « Et nos fils, qu'auront-ils ?»« L'hôpital, » répartit Trémargat, mot qui, tombé dans la foule, germa promptement. Je m'aperçus au milieu de ces réunions d'une disposition de mon caractère que j'ai retrouvée depuis dans la politique et dans les armes. Plus mes collègues ou mes camarades s'échauffaient, plus je me refroidissais. Je voyais mettre le feu à la tribune ou au canon avec indifférence. Je n'ai jamais salué la parole ou le boulet. Le résultat de nos délibérations fut que la noblesse traiterait d'abord des affaires générales et ne s'occuperait du fouage qu'après la solution des autres questions. Résolution directement opposée à celle du tiers. Les gentilshommes n'avaient pas grande confiance dans le clergé qui les abandonnait souvent, surtout quand il était présidé par l'évêque de Rennes, personnage patelin, mesuré, parlant avec un léger aisément qui n'était pas sans grâce et se ménageant des chances à la cour. Un journal, La Sentinelle du Peuple, rédigé à Rennes par un écrivailleur arrivé de Paris, fomentait les haines. Les États se tinrent dans le couvent des Jacobins, sur la place du Palais. Nous entrâmes, avec les dispositions qu'on vient de voir, dans la salle des séances. Nous n'y fûmes pas plutôt établis que le peuple nous assiégea. Les 25, 26, 27 et 28 janvier 1789 furent des jours malheureux. Le comte de Thiars avait peu de troupes, chef indécis et sans vigueur. Il se remuait et n'agissait point. L'école de droit de Rennes, à la tête de laquelle était Moreau, avait envoyé quérir les jeunes gens de Nantes. Ils arrivaient au nombre de 400, et le commandant, malgré ses prières, ne les put empêcher d'envahir la ville. Des assemblées en sens divers, au champ Montmorin et dans les cafés, en étaient venues à des collisions sanglantes. Là, d'être bloqués dans notre salle, nous prîmes la résolution de saillir dehors, l'épée à la main. Ce fut un assez beau spectacle. Au signal de notre président, nous tirâmes nos épées, tous à la fois, au cri de « Vive la Bretagne !» Et comme une garnison sans ressources, nous exécutâmes une furieuse sortie pour passer sur le ventre des assiégeants. Le peuple nous reçut avec des hurlements, des jets de pierres, des bourrades de bâtons ferrés et des coups de pistolet. Nous fîmes une trouée dans la masse de ces flots qui se refermaient sur nous. Plusieurs gentilshommes furent blessés, traînés, déchirés, chargés de meurtrissures et de contusions. Parvenus à grand-peine à nous dégager, chacun regagna son logis. Des duels s'ensuivirent entre les gentilshommes, les écoliers de droit et leurs amis de Nantes. Un de ces duels eut lieu publiquement sur la place royale. L'honneur en resta au vieux Keralieu, officier de marine, attaqué qui se battit avec une incroyable vigueur aux applaudissements de ses jeunes adversaires. Un autre attroupement s'était formé. Le comte de Montboucher aperçut dans la foule un étudiant nommé Uliac, auquel il dit « Monsieur, ceci nous regarde ». On se range en cercle autour d'eux, Montboucher fait sauter l'épée d'Uliac et la lui rend. On s'embrasse et la foule se disperse. Du moins, la noblesse bretonne ne succomba pas sans honneur. Elle refusa de députer aux États généraux parce qu'elle n'était pas convoquée selon les lois fondamentales de la constitution de la province. Elle alla rejoindre en grand nombre l'armée des princes, se fit décimer à l'armée de Condé ou avec Charette dans les guerres vendéennes. Eût-elle changé quelque chose à la majorité de l'Assemblée nationale, au cas de sa réunion à cette Assemblée ? Cela n'est guère probable. Dans les grandes transformations sociales, les résistances individuelles, honorables pour les caractères, sont impuissantes contre les faits. Cependant, il est difficile de dire ce qu'aurait pu produire un homme du génie de Mirabeau. Mais d'une opinion opposée, s'il s'était rencontré dans l'ordre de la noblesse bretonne. Le jeune Boahut et Saint-Rival, mon camarade de collège, avaient péri avant ces rencontres, en se rendant à la chambre de la noblesse. Le premier fut en vain défendu par son père, qui lui servit de second. Lecteur, je t'arrête. Regarde couler les premières gouttes de sang que la Révolution devait répandre. Le ciel a voulu qu'elles sortissent des veines d'un compagnon de mon enfance. Supposons ma chute au lieu de celle de Saint-Rival. On eût dit de moi, en changeant seulement le nom, ce que l'on dit de la victime par qui commence la grande immolation. Un gentilhomme nommé Chateaubriand fut tué en se rendant à la salle des États. Ces deux mots auraient remplacé ma longue histoire. Saint-Rival eût-il joué mon rôle sur la terre ? Était-il destiné au bruit ou au silence ? Passe maintenant, lecteur. Franchis le fleuve de sang qui sépare à jamais le vieux monde dont tu sors du monde nouveau à l'entrée duquel tu mourras.